Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il ne vous a pas échappé que cette semaine, le prix Nobel de la paix a été décerné à une illustre inconnue, opposante vénézuélienne, apparemment très pacifique, n'est-ce pas, d'être opposant politique. Bref, vous avez remarqué également que dans l'introïte, nous demandons la paix da pacem domine. Donc, cette conjonction de la liturgie et de l'actualité nous invite à parler de la paix. La paix qui est définie par saint Augustin par la tranquillité de l'ordre. Les deux termes, bien entendu, sont très importants. La paix, ce n'est pas juste la tranquillité, parce que on peut être tranquille même dans le désordre. C'est la tranquillité de l'ordre. Maintenant, voyons un peu en contraste la paix telle qu'elle a été définie par Monsieur Prévost, qui s'est fait appeler Léon XIV, n'est-ce pas, et qui, dès son premier discours d'investiture, investiture c'est aussi l'actualité, n'est-ce pas, les investitures, démissions, réinvestitures, bref. Donc, dans son premier discours, Monsieur Prévost, restons sur les réalités ecclésiastiques, a répété le mot « paix » 9 fois. Ce qui est quand même pas mal, parce que le discours n'est pas très long. Il a commencé en disant « La paix, donc je vous souhaite la paix, c'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et désarmante. » Très poétique, Monsieur Prévost, mais bon, pas très constructif. « Humble et persévérante, elle vient de Dieu, Dieu qui nous aime tous. » Et là, c'est l'adverbe qui est important, « inconditionnellement ». Donc, pour Monsieur Prévost, le fondement de la paix, c'est l'amour inconditionnel de Dieu pour les hommes. Inconditionnel. Ça signifie quoi? Ben, ça signifie que Dieu ne demande rien de nous. C'est ça que ça veut dire inconditionnel. Ou bien, Monsieur Prévost doit m'expliquer dans quel sens il comprend le mot inconditionnel. Donc Dieu nous donne la paix, Dieu nous crée, mais Dieu ne demande rien de nous. Donc, c'est ça la réalité. La paix est présentée ici comme un don universel de Dieu à toute l'humanité sans aucune condition d'adhésion à lui. Donc la paix, elle descend de Dieu vers les hommes uniquement. Alors, vous me direz, bien sûr, dans l'évangile, dans l'introïde, pardon, qu'est-ce que nous avons demandé à Dieu? Da pacem. Donc si on demande à Dieu la paix, c'est qu'elle vient de lui. Et de toute façon, c'est vrai, elle vient de lui, mais pas dans le sens de Monsieur Prévost. Une espèce de paix inconditionnelle entre tous les hommes. La paix, elle vient effectivement de Dieu, parce que l'homme vient de Dieu et parce que l'homme doit se relier à Dieu. Mais nous le verrons par contraste avec la doctrine catholique sur la paix exprimée par le pape Saint Pie X. Donc, la paix, selon Monsieur Prévost, amour de Dieu inconditionnel et, deuxième élément, fraternité universelle. Aidez-nous à construire des ponts, a-t-il dit, par le dialogue, par la rencontre, en nous unissant tous pour être un seul peuple, toujours en paix. Donc, comment on construit la paix? Quels sont les moyens de la paix? C'est de construire des ponts. Alors là aussi, hein, on est dans la métaphore qui veut tout dire et rien dire. Le dialogue, la rencontre et en nous unissant. Donc, la paix est obtenue par dialogue et rencontre. Donc, dialogue, c'est au niveau de parler. Rencontre, du langage, des mots. Rencontre, ben, c'est se serrer la main, s'embrasser, se donner des accolades, etc. Ce qu'ils passent leur temps à faire. Et c'est ça, c'est de cela que résulte finalement la paix et l'union humaine. La paix se construit par une rencontre et une collaboration humaine. Il n'y a pas de conversion. Il y a un plan qui est rigoureusement horizontal. Il n'y a pas de référence supérieure qui pourrait être une base pour le dialogue. Non, rien de tout cela n'est précisé. Et d'ailleurs, tout ce qui est considéré comme vérité absolue est considéré comme un élément de dissension. Donc, il faut absolument insister sur les points qui nous unissent et pas sur ceux qui nous divisent. Les points qui nous unissent sont considérés comme des vérités. Donc vous voyez que la vérité est placée à un point de vue démocratique et subjectif, au lieu d'être à un point de vue réaliste et objectif, auquel les mentalités, les esprits, les intelligences doivent se plier. Donc cette vérité, finalement, n'existe pas. Il y a ces points de contact. Par exemple, comme disait Ratzinger, qui s'est fait appeler Benoît XVI, nous sommes d'accord, nous sommes en union même avec les athées. Quel est le point de contact pour lui? C'est le doute. Donc nous sommes d'accord avec les athées parce que nous sommes tous dans le doute. On ne sait pas si Dieu existe, grosso modo. Eux, ils ne savent pas si Dieu n'existe pas. Bon, dans la réalité, beaucoup d'athées sont des anti-déistes acharnés et prétendent que Dieu n'existe pas. Mais eux, c'est des gens qui sont pas pour le dialogue, la paix, etc. Eux, c'est des méchants. De même que les catholiques qui prétendent que Dieu existe, qu'il n'y a pas de doute là-dessus, et que les athées sont dans l'erreur, ben, eux aussi, ce sont des méchants. Ils sont contre la paix. Vous voyez le point de vue. Donc à chaque fois, on va chercher ces soi-disant points de contact avec tous les chrétiens. Nous croyons tous en Christ. Alors, est-ce que les protestants croient en notre Seigneur Jésus-Christ comme nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ ? Vous voyez que cette paix, elle est fondée sur l'ambiguïté dans le dialogue. De même, au niveau de l'Église, on va favoriser en réalité toutes les tendances. Pour avoir une Église en paix, on va favoriser toutes les tendances qui seront considérées comme des moyens pour chacun d'aller vers Dieu dans l'Église catholique. Si votre moyen, comme disait un certain cardinal Corse, si votre moyen d'aller à Dieu, un copain de Bergoglio, si votre moyen, un franciscain, si votre moyen d'aller à Dieu, c'est la messe traditionnelle de Saint Pie V, il disait, mais tant mieux, c'est bien pour vous. Si votre moyen à Dieu, c'est le charismatisme et de chanter joyeusement avec des maracas et des tambourins dans l'église, mais tant mieux. Si votre moyen, c'est de ne pas aller à la messe et de prier uniquement chez vous ou de faire des câlins aux arbres avec lesquels vous connectez à Dieu... Non, là, il a pas dit ça, hein, mais je glose. Tant mieux. Grosso modo... Peu importe. Le plus important, disait-il cette fois, c'est que on ne considère pas notre moyen, selon lui, d'aller à Dieu comme un moyen absolu. Donc on veuille que tout le monde soit traditionnaliste, que tout le monde soit chacha, charismatique, pardon. Que tout le monde soit, on va dire, pour eux, normal dans l'Église moderne. Il ne faut pas d'absolu. Et dans ce cas-là, on est en paix. C'est pourquoi beaucoup de traditionalistes se sont rangés à partir du moment où on leur donne leur petite niche, à savoir avoir une église et des superbes cérémonies selon le rite de Saint Pie V, eh bien, ça leur va. Plus aucun problème avec la liberté religieuse, plus aucun problème avec ce modernisme, etc. Tout est ok tant que on a notre petite niche religieuse. On est en paix. La finalité de tout ça, eh bien, c'est d'être justement un seul peuple en paix, une église qui marche. Je cite la prévoste hein, dans son premier discours, il n'a pas changé hein, depuis lors. La vision, donc, pour eux, c'est le but de l'Église, finalement, et de la papauté depuis Vatican II, c'est quoi ? C'est la paix sur terre. Paul VI ne s'en est pas caché dans certains discours à l'ONU. Jean-Paul II, évidemment, et les autres ne s'en sont pas cachés non plus. Leur but, c'est d'apporter la paix sur Terre. Donc, c'est une espèce d'humanitarisme inclusif dans le respect réciproque des différences. C'est le jargon, hein, n'est-ce pas ? Donc, si on regarde trois éléments. Un, pour lui, la paix, elle descend de Dieu sur l'homme. Mais elle ne remonte jamais, donc Dieu donne, mais il n'y a jamais de devoir de la part de l'homme de revenir à Dieu. Donc c'est Dieu qui donne sans condition. Donc la paix ne sera pas fondée sur la liaison, l'ordre à Dieu, hein, je vous le rappelle, tranquillité de l'ordre, ça ne sera pas fondé sur l'ordre à Dieu, et l'ordre entre les hommes découlant de l'ordre à Dieu par le moyen de la grâce sanctifiante, par le moyen de la foi, des vertus théologales, des vertus morales, par le moyen de l'observance des commandements. Non, la paix, elle viendra par le silence sur ce qui nous divise et l'accentuation sur tout ce qui nous unit. Donc, on a une vague fraternité universelle qui dissout totalement, bien sûr, notre relation à Dieu dans la vérité. Maintenant, voyons comment le pape Saint Pie X parlait de la paix. Dans sa lettre sur le Sillon, donc le Sillon hein, qui est un mouvement justement de fraternité universelle, soi-disant pour le bien de la société, est fondé sur la foi chrétienne. Donc on a des caractéristiques, bien sûr, le Sillon en fait c'est un mouvement de modernisme pratique, et par conséquent, ce qui est exprimé dans cette lettre sur le Sillon est condamné par le pape Saint Pie X, bien entendu, se rattache au modernisme pratique qui sévit aujourd'hui dans l'Église. Le fondement pour lui, d'ailleurs, le mot paix ne revient qu'une seule fois dans cette lettre sur le Sillon qui est notablement plus grande que le petit discours de Monsieur Prévost. Cependant, c'est beaucoup plus clair. Jésus est venu sur terre souffrir et mourir pour que tous les hommes vivent dans la paix et le bonheur. Jusque-là, tout moderniste pourrait souscrire sans aucun problème. Ça nous rappelle les premières paroles. C'est la paix du Christ ressuscité, elle vient de Dieu qui nous aime tous. Je vous passe inconditionnellement. Donc, pour que tous les hommes vivent dans la paix et le bonheur. Mais, il n'y a pas inconditionnellement. Mais, dit le pape Saint Pie X, Jésus a mis la condition que l'on fasse partie de son troupeau, que l'on accepte sa doctrine, que l'on pratique la vertu, et qu'on se laisse enseigner et guider par Pierre et ses successeurs, par l'Église, donc par le magistère infaillible de l'Église. Donc la paix, eh bien, elle n'est pas inconditionnelle. La paix, elle est fondée sur l'adhésion à la vérité et à l'autorité de l'Église. Ça change absolument tout, n'est-ce pas ? On passe d'un point de vue qui descend uniquement de Dieu vers l'homme, sans exigence, sans contrepartie, à une paix qui descend effectivement de Dieu vers l'homme, parce que la paix, c'est une relation. C'est une relation. Pour qu'il y ait paix, il faut deux éléments. C'est deux éléments qui sont en paix. Être en paix avec soi-même, c'est une expression, mais ça signifie en fait qu'à l'intérieur de nous, comme le dit d'ailleurs l'apôtre saint Paul, je sens deux hommes en moi. Il n'était pas bipolaire, hein, rassurez-vous. Maintenant aussi, c'est la mode de mettre des bipolaires partout. Pas du tout. C'est la question de la lutte contre nos mauvaises tendances. Et effectivement, là, pour le coup, la guerre est absolument nécessaire pour obtenir la paix de l'âme. Il faut faire la guerre à cela. Ben, c'est la même chose au niveau de la paix dans la société, de la paix dans l'Église. Il faut adhérer à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut adhérer à sa doctrine. Si on n'adhère pas à Dieu, on n'est pas en paix avec Dieu. Si on n'adhère pas à Dieu, aux vérités qu'il nous a révélées, enseignées par son Église, on n'est pas relié à lui, on n'est pas en paix avec lui. Il y a que deux options. Soit on est relié à Dieu par la vérité, par la foi, par la morale, par la grâce sanctifiante, soit on ne l'est pas. Si on est relié à Dieu, on est en paix, et si les hommes sont reliés à Dieu, eh bien ce sera le moyen d'être reliés entre eux, forcément, et donc d'avoir une base solide pour la paix entre les hommes, entre les nations aussi. Mais si l'homme n'est pas relié à Dieu, il est en guerre contre Dieu. Et c'est ce qu'exprime magnifiquement et beaucoup plus longuement saint Augustin dans son traité de la cité de Dieu, justement. Magnifique traité à lire, à méditer, parce que il nous montre cette guerre contre Dieu, et en fait, il n'y a que ces deux options. Si nous voulons une humanité en paix, il faut que l'humanité reconnaisse notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui sera parfait uniquement à la fin du monde, vu la condition malheureusement pécheresse de l'homme. Mais ça ne nous empêche pas d'affirmer cette réalité et de travailler à cette paix, nous, en adhérant à Dieu. S'il a été bon pour les égarés, nous dit saint Pidis, il ne respecta pas leurs convictions erronées, quelque sincères qu'elles parussent. Il les a aimées pour les instruire, les convertir, les sauver. Qu'est-ce que nous faisons en méditant chaque dimanche les évangiles de notre Seigneur Jésus-Christ? Parfois, comme aujourd'hui, nous avons principalement un miracle. Mais en plus de ce miracle, il y a un enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des condamnations, il y a des affirmations, il y a des choses qui divisent. Ce n'est pas pour rien qu'il avait contre lui ces groupes intellectuels en particulier, qui étaient les pharisiens, les sadducéens, etc., qui s'opposaient à lui et auxquels il était opposé. Parce que il ne voulait pas de sa doctrine, de son enseignement. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ leur a dit « Attendez, là, vous me comprenez mal, on va discuter, on va trouver des points d'entente, on va dialoguer, on va se serrer la main, on va faire une déclaration commune sur nos points de contact ». On croit en un seul Dieu, effectivement. On croit à l'observance des commandements de Dieu. Ok, bah ça s'arrête là. Parce que même l'observance des commandements de Dieu chez les pharisiens, c'est une observance qui est très matérielle et qui n'est pas ordonnée finalement à l'amour de Dieu comme nous le montre notre Seigneur Jésus-Christ. De même, ils croient en un seul Dieu, oui, mais ils ne croient pas dans la Sainte Trinité. Ils croient dans le Père, mais ils ne croient pas dans le Fils. Et notre Seigneur leur dit très vigoureusement, celui qui ne croit pas en moi, eh bien, celui qui ne m'aime pas, il n'aime pas le Père. Celui qui ne me reconnaît pas, il ne reconnaît pas le Père. Et vous, ajoute notre Seigneur, Vous avez le diable pour père. Oh, le méchant. Ouh, il est contre le dialogue interreligieux. C'est ça. La réalité, c'est ça que doit annoncer l'Église. Ce n'est pas de chercher la paix à tout prix. Parce que la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Ce n'est pas juste la tranquillité. La tranquillité fondée sur le compromis. La tranquillité fondée sur le silence. La tranquillité fondée sur un pseudo-respect de toutes les opinions. Alors même que ce qu'on appelle opinion, ce sont des vérités de foi. Qu'il n'y ait qu'un seul Dieu en trois personnes, c'est une vérité de foi. Les juifs religieux d'aujourd'hui sont dans l'erreur. Les musulmans sont dans l'erreur. Les déistes sont dans l'erreur. Et l'Église doit l'affirmer. C'est ce que nous dit le pape Saint-Pie X, parce que l'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc elle continue la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle n'est pas là pour conforter chacun dans son erreur et que l'humanité soit dans une vague tranquillité qui n'a rien à voir avec la véritable paix. Notre Seigneur les a aimés pour les instruire, les convertir, les sauver. Notre Seigneur n'est pas neutre. Il nous amène à croire en lui, à croire dans son Père et à adhérer à lui par la pratique des commandements et des vertus et donc par la charité. La finalité, c'est l'ordre social chrétien dont parle justement le pape Saint-Pie X. Il n'a pas annoncé le règne d'une félicité idéale, mais il a tracé le chemin du bonheur possible sur terre et du bonheur parfait au ciel, la voie royale de la croix. Effectivement, la paix véritable ne supprime pas le conflit. La paix véritable, elle est fondée sur la vérité, sur la charité et donc sur la croix. Même s'il n'y a pas de paix entre nous et les protestants, c'est eux qui s'opposent à la paix. C'est ça la réalité. La paix, la véritable paix, ce n'est pas une paix de compromission. La véritable paix, c'est une paix d'adhésion à la vérité et à la justice. Il faut bien le comprendre. Il ne faut pas comparer la paix qui est cette paix surnaturelle, cette paix des esprits, avec la paix purement matérielle, notamment entre les États, qui, dans certaines situations, peut être fondée sur certains compromis et sur l'acceptation même, à un moment donné, de certaines injustices. Sinon, c'est la guerre permanente. Mais c'est pas le cas au niveau des idées. Ce n'est pas le cas au niveau de la foi. On ne peut pas transposer ce qui se passe au niveau et ce qui peut se passer au niveau géopolitique à ce qui se passe au niveau de la foi. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ils sont hyper stricts au niveau géopolitique. Ils ne veulent rien céder. On peut parler de la guerre entre l'OTAN et la Russie. Ils ne veulent absolument rien céder. Ils ne veulent même pas reconnaître leurs erreurs, notamment du côté de l'OTAN. Alors qu'il le faudrait pour la paix, pour ces milliers de personnes qui meurent, etc. Non, ils attendent forcément que ça vienne de l'autre, chacun campant sur ses positions. Ça, on ne peut pas le transposer dans l'ordre des idées. On ne peut pas. On ne peut pas parce que la vérité, c'est la vérité. Les vérités de foi sont les vérités de foi. On ne peut pas dialoguer, on ne peut pas négocier sur cela. On peut négocier sur un bout de territoire, on peut négocier sur une responsabilité de l'un ou de l'autre, mais on ne peut pas négocier sur la foi, on ne peut pas négocier sur la morale, on ne peut pas négocier sur les principes. Il faut bien le comprendre. En revanche, bien entendu, et en d'autres endroits, le pape Saint-Pilice le dit, il ne s'agit pas non plus, même pour le catholique, de chercher l'affrontement doctrinal en permanence. Hein, ce n'est pas cela. Et même dans l'annonce de la vérité, il faut faire preuve de charité, de délicatesse et d'à-propos. Malheureusement, ce n'est pas compris non plus par certaines personnes, parce que on veut s'opposer à l'Église dialogale issue de Vatican II, qui passe son temps à diluer la foi catholique. Eh bien, pour réagir à cela, on s'invente une espèce de foi catholique monobloc, sans aucune nuance, en mettant sur le même plan des vérités de foi et des opinions, etc. Ça, ce n'est pas non plus ce que nous dit l'Église. Hein. Après, les vérités de foi, il y en a beaucoup, hein, tandis que les opinions théologiques, il y en a aussi beaucoup, mais ça reste sur des points de détail, effectivement. Après, c'est la question de la manière de s'adresser à ceux qui n'ont pas la foi. C'est la question, là, de la charité, effectivement, dans un véritable dialogue, sans céder aucunement, et l'Église l'a toujours fait, hein, comme on le voit dès les apôtres, l'Église l'a toujours fait, mais de manière magistérielle, en annonçant la vérité. Celui qui n'en veut pas, il peut discuter. Et si il montre un peu de bonne foi, il sera peut-être amené à se convertir. S'il montre de la mauvaise foi, eh bien, malheureusement, il n'y a plus rien à faire pour lui. Et c'est ce que nous montre aussi notre Seigneur Jésus-Christ. À un moment donné, il ne discute plus, il ne répond même plus aux pharisiens et autres. Parce qu'il voit qu'il n'y a rien à faire. Donc là aussi, nous ne sommes pas notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas son autorité, nous n'avons pas son intelligence, nous n'avons pas sa vision aussi des cœurs, donc nous devons faire a fortiori preuve de patience et de charité. Donc voilà, mes bien chers frères, nous devons en tant que chrétiens, en tant que catholiques, reconnaître que la vision de paix qui nous est donnée par Monsieur Prévost, et n'est pas catholique, tout simplement. C'est une vision fondée sur le dialogue, une vision horizontale, une vision démocratique, la vérité étant le consensus des idées entre les hommes. Toutes les autres idées n'étant pas consensuelles, eh bien, sont considérées finalement comme des points de rupture, des points de guerre, et par conséquent, il faut les taire. Il faut qu'elle soit renvoyée à la conscience personnelle, à la relation personnelle à Dieu. Et ça, ce n'est pas catholique, évidemment, puisque c'est taire la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est taire la divinité de la Sainte Église et de sa mission, et se fonder une espèce de tranquillité humaniste, mais qui n'est pas la tranquillité de l'ordre, qui n'est pas la paix. Au contraire, la paix catholique, c'est la paix exprimée par Saint-Pilice, elle est hiérarchique, elle est doctrinale, elle nous est donnée par Dieu, mais elle exige de notre part d'aller vers Dieu, justement. Elle exige de notre part de nous soumettre à Dieu, parce que Dieu est notre maître. Elle exige de notre part de nous soumettre à la vérité, parce que la vérité, ce n'est pas nous qui la construisons. La vérité ne se construit pas par de manière démocratique, par les consensus entre les hommes. La vérité, elle vient de Dieu à travers sa création, les choses telles qu'il les a faites, c'est la vérité naturelle. La vérité, elle vient de Dieu à travers sa révélation. Et c'est à ça que nous devons adhérer. Et derrière cette vérité, eh bien, il y a tout l'ordre moral, le retour à Dieu qui est nécessaire. L'observance des commandements, en particulier la pratique des vertus, est nécessaire. Donc, mes bien chers frères, essayons de regarder cela aussi à notre propre niveau. Est-ce que nous voulons la paix intérieure, la paix de notre âme? À ce moment-là, nous devons adhérer à Dieu. Et ça impliquera un combat permanent, paradoxalement. Si nous voulons la paix de l'âme, nous devons être en guerre permanente contre le péché et contre nos mauvaises tendances. Si nous voulons la paix dans nos familles, elle ne se fait pas par compromis. Et certains chrétiens, certains traditionnalistes s'écrasent quasi systématiquement devant leur famille, ne sont pas nets au point de vue de l'assistance à la messe le dimanche, au niveau du respect des pratiques chrétiennes, notamment de l'abstinence du vendredi, pour rester tranquille. Non, mes bien chers frères, il faut être ferme sur notre foi et savoir affirmer paisiblement, sans être dans l'opposition. Et si eux réagissent mal, eh bien voilà, s'ils ne veulent pas comprendre notre position, c'est eux qui se montrent agressifs. Nous restons droits sur nos positions parce que nous savons que nous avons la vérité. Donc il faut être ferme même au niveau de nos familles, parce que sinon c'est un témoignage lamentable que nous donnons. Et plus on cède sur la pratique de la foi, de la morale, des commandements de l'Église, plus ils vont empiéter sur ce territoire et finir par nous écraser complètement, parce que notre pratique de la foi n'existera quasiment plus sinon à un niveau intérieur. C'est ça le libéralisme pratique, maintes fois condamné par l'Église. Si nous voulons la paix au niveau de la société, il n'y a qu'une chose, la reconnaissance du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, que nous fêterons en cette fin d'octobre. Donc, mes bien chers frères, la question à se poser, c'est que voulons-nous ? Nous voulons la paix, oui, mais avec qui ? Et quelle paix ? Est-ce que nous voulons simplement la tranquillité, ou est-ce que nous voulons la tranquillité de l'ordre, qui implique parfois la lutte, qui implique parfois d'accepter les oppositions qui nous sont faites, qui implique évidemment la guerre à nos passions, qui implique la guerre à nos mauvaises tendances. Donc demandons à Dieu cette paix, mais la véritable paix, la tranquillité de l'ordre et de l'ordre à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.